Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 150 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Bien que le nombre de podcasts au niveau mondial soit en hausse, et bien que ce soit un médium de plus en plus écouté, on prévoit jusqu'à 1,5 milliard d'écoutes pour 2024. Seulement 10% des podcasts passent le cap des 100 épisodes. Avec maintenant plus de 150 épisodes produits, nous aimerions tout d'abord prendre l'opportunité de vous remercier pour la présence continue, pour vos commentaires et surtout vos encouragements. On ne serait pas là sans vous. Et on aimerait, dans cet épisode, échanger avec vous sur 5 leçons que nous tirons de l'aventure. D'une certaine façon, on lève le rideau sur la production. Bonjour Jean-François.
Bonjour Éric.
Jean-François, que de chemin parcouru depuis le mars 2021.
Incroyable le chemin parcouru, c'est des beaux souvenirs aussi, c'est des très bons souvenirs.
Effectivement. Animer, produire un podcast hebdomadaire de manière constante, c'est clairement un défi. C'est comme, d'une certaine façon, un marathon. Il faut se préparer pour le parcours. Ouais. Il y a beaucoup de choses à considérer quand on prépare des podcasts. Il faut être discipliné pour soutenir l'effort. Il y a de l'idéation du contenu, la rédaction des scripts, la planification des rencontres avec les invités, la production, la promotion de l'émission. Mais c'est aussi une expérience amusante, une expérience qui nous permet de faire le plein d'apprentissage, tant pour les sujets que les gens que nous rencontrons. J'aimerais qu'on puisse discuter de 5 grandes leçons qu'on tire de cette production de nos podcasts et de pouvoir échanger avec toi justement sur ta perspective par rapport à ces 5 grands points-là. Le premier que j'aimerais aborder, c'est d'abord et avant tout, je pense, un point qui est extrêmement important par rapport à notre auditoire, mais c'est de créer de la valeur pour notre auditoire. On a un podcast qui s'appelle Innovation, Agilité, Excellence. Évidemment, on aborde des sujets qui touchent les moyens de faire croître l'organisation, qui permettent de développer les compétences de ceux qui nous écoutent. Et ça nous amène donc à adopter un point de vue de nos auditeurs par rapport à quels seraient les meilleurs sujets, les meilleures questions à aborder, se mettre donc dans les souliers de nos auditeurs. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça nous permet d'explorer différents sujets d'intérêt, ça nous permet d'adopter différents points de vue, comme je le mentionnais, mais aussi de penser en termes de transformation. Où est-ce qu'on est au début de l'épisode? Où est-ce qu'on va se retrouver à la fin de l'épisode? Comment notre échange a pu faire en sorte qu'on a développé une certaine perspective ou adopté une perspective différente? Et au final, mais comment les apprentissages de l'épisode vont-ils aider au développement des différentes compétences ou faciliter le développement de la croissance de l'organisation? En fait, c'est de se concentrer sur ce qui peut permettre de faire une différence au fur et à mesure de nos épisodes, au fur et à mesure des sujets qu'on aborde.
C'est vraiment, alors, enfin, moi, je l'aborde comme ça, d'entrer en empathie avec l'auditoire, avec ceux qui nous écoutent, se mettre à leur place et non pas uniquement essayer d'assouvir notre curiosité ou au contraire, essayer de démontrer certaines choses que nous tenons pour vraies. Le but n'est pas ça, en réalité. Le but est de vous faire réfléchir. Le but est de faire donner des idées et de faire avancer vos réflexions sur ce qui nous entoure et tous les changements auxquels on est confronté aujourd'hui au quotidien. Donc, c'est quand même... Donc, on essaie d'entrer, de se mettre à votre place et de dire... Qu'est-ce qu'un entrepreneur, qu'est-ce qu'un jeune cadre ambitieux, qu'est-ce qu'un dirigeant voudrait savoir sur tel ou tel sujet? Et puis après ça, bien, c'est trouver ces équilibres-là de points de vue, comme tu dis. Hein? Donc, pas toujours utiliser les mêmes points de vue. On essaye d'avoir beaucoup de diversité là-dedans. D'amener de la diversité, des jeunes, des plus âgés, des hommes, des femmes, des gens de différents continents, différentes cultures, différentes industries, différents backgrounds. Essayer d'amener ça. Bien entendu, on vient du milieu du conseil, on va certainement, hein, on va rester dans le sujet, non pas sortir du sujet. J'irai pas parler d'économie, par exemple, même si certains podcasts, on peut faire des petites entorses à ça, mais grosso modo, c'est vraiment ça. Essayez de penser à votre place pour vous et qu'est-ce qui pourrait faire quelque chose, une vraie différence pour vous? C'est vraiment c'est ce qu'on pense qui crée de la valeur pour vous.
Et ça m'amène, quand on parle de développer de la valeur pour nos auditeurs, ben, ça nous amène à porter attention à la planification des épisodes. Donc, comme tu le dis, c'est quoi la suite logique qu'on essaie de bâtir? Comment ça s'équilibre avec nos lettres hebdomadaires? Comment les sujets s'imbriquent les uns dans les autres? Comment les invités de la série des... Comment qu'on peut... je pourrais dire, faire suivre une série d'invités pour bâtir sur une thématique. Donc, ça nous amène à penser de cette façon-là. Ça m'amène aussi à mettre en valeur la notion du développement d'une communauté d'auditeurs. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait les épisodes, ben on a du feedback, on a des commentaires, on a des gens qui interagissent avec nous. Avec les 150 épisodes, il y a même des lunchs qu'on a pu avoir avec certaines personnes qui sont rentrées en contact avec nous pour explorer différentes thématiques. Et ben, c'est peut-être quelque chose à laquelle, pour moi, je vais mentionner que j'avais pas réfléchi au tout début, mais ça, c'est l'impact que ça a en termes de rayonnement et comment ça devient une conversation. Bien qu'on fasse un épisode et qu'on distribue le contenu, mais à quelque part, il y a des retours. Et ce feedback-là permet de créer de nouvelles relations, de nouveaux échanges, de nouvelles idées qui, par la suite, vont générer justement de nouveaux épisodes et on va pouvoir continuer à bâtir sur certaines thématiques. Alors ça, c'est peut-être un effet corollaire que j'avais peut-être pas anticipé pour ma part au tout début, mais que je trouve drôlement intéressant quand on parle de création de valeur et de créer cet échange-là que j'aime beaucoup, là.
Ouais, et puis c'est aussi, plus j'en fais avec toi, plus je m'aperçois que c'est une forme de R&D pour moi. Donc c'est une forme de recherche et développement, ça me force, parce que mine de rien, il y a beaucoup je dis pas la majorité, mais il y a beaucoup de nos invités qui sont des gens que nous ne connaissons pas, que nous rencontrons dans des conférences, dans le cadre de notre activité professionnelle, mais ce n'est pas des amis ou des connaissances. Donc oui, bien sûr, il y a des personnes que nous apprécions. Je pense à Matthew, par exemple, qui est un de mes anciens étudiants, puis qui est devenu... Enfin, moi, j'aime l'entendre parler de transformation numérique et je pense que tout le monde aime la façon dont il parle de transformation numérique. Et moi, j'aime bien lui poser des questions quand... Justement, je suis confronté à ça. Et puis, je me dis, qu'est-ce que les gens en exercice veulent savoir sur des sujets qui sont quand même, mine de rien, assez pointus et sur lesquels c'est des sujets d'experts et sur lesquels, bon, on veut quand même développer un vocabulaire, développer un bagage de connaissances pour pouvoir discuter avec nos chief information officers, avec nos prestataires de services, sur ces sujets-là. Et on espère que le fait de poser ces questions-là vous amène à poser je veux pas dire les mêmes questions, mais des questions corollaires avec vos intervenants au quotidien, dans vos activités du quotidien.
Alors ça, c'était le premier élément, donc créer de la valeur pour l'auditoire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est amener un regard différent, créer une perspective qui permet justement, comme tu viens de le mentionner, d'aborder des sujets de façon différemment. Le deuxième élément, à quoi ça me fait penser, donc, c'est de rendre les épisodes faciles à écouter. Pour ma part, je suis un grand consommateur de podcasts. Je me rends compte que des producteurs ou des animateurs de podcasts qui sont plus faciles à écouter. Il y a des thématiques qui ressortent dans la façon de produire un épisode. Et ben, ça m'amène à aborder la question clarté des sujets qui sont discutés. Peu importe le format d'épisode, donc la clarté, comment qu'on en parle, d'aider les auditeurs, évidemment, à apprendre et à découvrir de nouvelles perspectives, on en a parlé tantôt, à partir de chacun des épisodes, ben ça mène aussi à réfléchir en termes de déroulement de l'épisode en soi. Quand je parle de rendre ça facile, il faut que ça soit facile à consommer. Donc, c'est le rythme de la conversation, c'est évidemment le déroulement, comment qu'on aborde les différentes thématiques, la qualité d'audio, on le dira jamais assez. C'est un médium qui est audio, même si vous l'écoutiez en vidéo sur YouTube, si le son n'y est pas, probablement que vous allez aller voir ailleurs. Donc, la qualité audio est primordiale. Et ça fait en sorte de... Ce qu'on veut faire, c'est de créer une excellente expérience d'écoute. Autant en focalisant sur la qualité du contenu qu'en focalisant sur la qualité de production en tant que telle. Donc, pour les auditeurs, ça veut dire quoi? qualité sonore, rythme de discussion, évidemment, on en a parlé, le sujet, la durée aussi, trouver un bon équilibre entre la durée pour pas, à quelque part, d'avoir un épisode de 3 heures. Là, c'est, je pense que personne n'écouterait un podcast de 3 heures. Donc, ça, c'est pour les éditeurs, je pense, quelque chose d'important. Et j'aimerais mentionner un élément, je crois, qu'on laisse souvent de côté quand on parle de différents podcasts, là, je ne dirais pas par rapport au nôtre, mais c'est la préparation des interviews et des gens qu'on rencontre. Et ça, on ne le voit pas, vous ne le voyez pas, mais on le travaille avec les gens qu'on rencontre. Mm-hmm. Donc, rendre l'expérience aussi facile que possible pour les invités, les mettre à l'aise, préparer la discussion, simplifier tous les éléments techniques, faire en sorte que tout cet élément-là de technique, de podcast, disparaissent quand on a une rencontre avec un David Autissier, quand on a une rencontre avec un François Girard, avec une Geneviève Motard ou avec tous les gens qu'on a pu rencontrer. C'est de faire en sorte qu'on focalise sur la discussion et qu'on oublie les éléments techniques pour que ça soit facile à écouter.
Et donc, il y a le flot des questions. Et ça, c'est travaillé, comme tu viens de le dire, en amont avec l'invité. Et assez curieusement, les invités jouent pas beaucoup avec les questions qu'on leur propose. Ils jouent un peu parfois avec la séquence ou ils en enlèvent certaines. De temps en temps, ils en ajoutent une ou deux, mais c'est plutôt rare. Règle générale, le flow est assez bon, entre guillemets, du premier coup. Et ça passe bien. Ce qui est pas toujours facile, ce que j'essaye ou ce qu'on essaye d'aller vers, une conversation presque naturelle. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que on reste un peu, parfois peut-être un peu timide devant le micro ou devant l'enjeu, le fait qu'on parle à, entre guillemets, je veux pas dire la planète entière, mais on parle, on est dans un média. On est notre propre média et ça, c'est très important. Donc, certains invités ont plus le trac que d'autres. Certains ont tendance à plus scripter. D'autres, on voit bien avec surtout les invités qui viennent du secteur de l'enseignement, pour eux, ça vient naturellement. Répondre à des questions comme ça, oups, blablabla, ça sort tout de suite. Pour d'autres, c'est un petit peu plus... donc, on les aide à travailler leurs réponses, à se préparer à tout ça. Et puis, comme tu dis, on vise une trentaine de minutes, donc, si on fait 25, tant mieux. Si on fait 35, ça va. Mais des fois, on saute certaines questions. Pourquoi? Par souci de concision. Parce qu'on sait que vous n'avez pas nécessairement tout le temps pour écouter ça. Je pense qu'entre 20 et 35 minutes, c'est la bonne durée pour faire ça. Exactement. On a assez de temps pour rentrer dans les détails. On a assez de temps pour expliquer des choses qui sont peut-être un peu plus complexes, sans non plus rentrer trop dans les détails. Donc, c'est trouver cet équilibre-là qui est pas simple. Après, oui, un bon micro, oui, la bonne plateforme, ça aussi, ça nous a pris du temps avant d'arriver à la bonne plateforme, la bonne caméra. On a des défauts, chacun a ses défauts, on essaye de les corriger, c'est pas facile. On en devient conscient, c'est une courbe d'apprentissage, sauf que la courbe d'apprentissage, dans certains cas, parfois, elle est plus longue qu'on pensait. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Il faut travailler sur ces choses-là. Et ça finit par rentrer, mais on espère que le résultat est bon. Moi, je pense que le résultat est très bon. J'aime nous entendre. Après ça, c'est toujours un peu spécial de s'entendre ou de demander à d'autres personnes. Moi, je le fais en classe. Sur certains podcasts, je présente certains clips de certains podcasts en classe. C'est toujours un peu rigolo quand c'est moi qui pose la question. Je fais un gros sourire, mais c'est surtout la valeur qui vient de la réponse qui est intéressante. C'est toujours drôle d'entendre sa voix dans l'ordinateur ou dans les haut-parleurs dans la salle.
Tout à fait. Et ça, quand tu me parles de courbe d'apprentissage, ça m'amène à la troisième grande leçon. Évidemment, c'est de systématiser toute la logistique et la production qui, dans le fond, qui est le moteur de production des épisodes. Et qu'on se le rappelle, comme on le disait tantôt, c'est un marathon. Donc, un marathon, ça demande de l'entraînement, ça demande qu'il y ait différentes phases. Quand on fait nos 42,2 kilomètres, on n'est pas dans le même état d'âme au début ou à la fin. On progresse. Et ça veut dire quoi, de façon concrète, dans une production d'épisodes ou production d'une série d'épisodes, parce qu'on est rendu à 150, Mais c'est de veiller à optimiser la production en utilisant différents outils et des applications spécifiques. Et tu le mentionnais, on a fait plusieurs tests, on a expérimenté différentes plateformes, différents outils, différents micros. On a été trois à un certain point avec Véronica dans le podcast.
Ouais.
On a testé différentes façons de pouvoir œuvrer tout ça. Et je pense que là, on a trouvé le bon fil conducteur pour pouvoir justement cheminer.
Un moment donné, j'aimerais pouvoir faire une rencontre en live, en face à face. Ça nécessite un certain équipement que nous n'avons pas aujourd'hui, certains types de connectique, certains équipements additionnels qui sont pas nécessairement donnés. Mais un jour, moi, j'aimerais bien arriver à faire ça, à pouvoir faire des rencontres en live dans la même salle, dans le même local. Mais bon, ça viendra.
Donc, tout ça nous amène à simplifier puis à penser système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vise en termes de production à chaque semaine une certaine efficacité dans la création, dans la production, dans la diffusion, de faire en sorte aussi qu'on crée une base de connaissances qui va être utile pour le réemploi. Et là, je m'explique, c'est-à-dire que tous les épisodes qu'on fait, bien que vous les entendiez de façon audio, sont produits aussi en vidéo. Et non, c'est une question de temps, c'est une question de sélection en termes de priorité, mais on a cette base de connaissances-là qu'on peut réutiliser à souhait, et c'est comme ça qu'on diffuse tranquillement du contenu, notamment sur YouTube en vidéo, pour justement trouver cet équilibre-là, pour trouver la bonne façon de systématiser, d'apprendre, de tester. Et ben, c'est un apprentissage qui continue. Ça veut dire quoi aussi? Comme tu le disais tantôt, il a fallu qu'on se familiarise à parler avec un micro, faire en sorte que quelque part le micro disparaisse de notre environnement, même s'il est là. Il y a une façon de parler avec un micro, mais il y a une façon aussi de le faire avec nos invités, faire en sorte que nos invités soient confortables avec un micro, soient confortables avec la vidéo, parce qu'ils sont enregistrés aussi. Et le fait d'avoir une caméra, des fois, on dirait que ça rend l'expérience un peu plus ardue. Donc,
ouais.
Donc tout l'élément que je parlais de mise en confort avec les gens qu'on rencontre. Donc, ça, c'est le côté production. Et comme je le disais tantôt, pour un marathon, bien, il faut accumuler les heures, il faut accumuler la pratique, tester des choses. Bien, produire un podcast, c'est une excellente expérience d'apprentissage. Donc, ça nous amène à rester flexibles,
oui,
à se tenir au courant des nouvelles applications, des nouvelles techniques qui existent. Ça fait en sorte aussi qu'on rencontre des personnes fascinantes en cours de route qui ont, eux, aussi une certaine expérience. Et donc, ça nous amène à voir comment conjuguer avec tout ça. Et ben, en bout de ligne, quand je parle d'expérimentation, ben, c'est aussi, ben, ça va influencer notre façon de penser, notre façon d'écrire et notre façon de parler.
Oui.
Parce que c'est ce médium-là, le côté production, quand on se réécoute, évidemment, vous voyez, vous entendez le produit fini, mais nous, quand on édite, ben, on voit les accros qu'on a, on voit les défauts qu'on fait ressortir et on édite pour les éliminer. Mais plus qu'on évite ces éléments-là dans la production initiale, mais plus c'est facile et plus qu'on systématise notre approche pour pouvoir sortir un épisode qui est ce que moi j'appelle assez bon, good enough, pour pouvoir justement être content du résultat.
Oui.
Donc ici, c'est sûr qu'au début, on pense beaucoup technique, mais au fur et à mesure qu'on avance, notre courbe d'apprentissage s'aplatit, si je peux dire, et le côté technique disparaît pour vraiment faire place à la qualité du contenu, focaliser sur les questions, focaliser sur les flows, le rythme et ces éléments-là. Ça reste toujours et c'est un plaisir de pouvoir toujours travailler sur, justement, sortir le meilleur de nos invités, si je peux le dire de cette façon-là.
Exact, oui, parce qu'ils n'ont pas tous le même niveau de maturité, entre guillemets, de culture informatique, de familiarité ou de facilité d'utiliser ces outils-là, même s'ils sont, je dirais, relativement facile d'utilisation. Certains de nos invités sont, disons, un peu plus âgés. Hein? Professeur Blank, on n'est pas loin, on approche du siècle. Donc, ce n'est pas toujours facile. Mais, enfin, moi, je tiens beaucoup à aller chercher les connaissances et faire sortir ces choses-là de tous ces gens-là qu'on rencontre, ou qu'on a rencontrés dans le passé. Dans le cas du professeur Blank, ça fait 30 ans que je le connais. Mais même ceux que je rencontre aujourd'hui, par exemple Patrick Norinberg, 3 mois après qu'on se soit rencontrés, on a fait le podcast parce que j'avais trouvé son intervention au colloque absolument fascinante. Mais chacun a son niveau de maturité et ses capacités de travail par rapport à tout ça. Je dirais même que moi qui interviewe souvent des gens ici en France, les outils qu'on utilise sont essentiellement en anglais, donc des fois ça peut poser des soucis aussi. Donc, il y a du travail derrière tout ça. On essaye de rendre ça le plus transparent possible. mais surtout, ça reste surtout énormément de plaisir que de faire ça. C'est vraiment, d'abord et avant tout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Faut aimer ça. Faut aimer vous imaginer nous écouter. Et faut aimer les gens et les questions qu'on leur pose. Faut croire, entre guillemets, aux questions qu'on leur pose. Et c'est comme ça que c'est un des ingrédients secrets qu'on met dans nos podcasts. C'est, on aime ça. On aime se poser des questions. J'aime écouter Eric. Je le contredis pas trop souvent, mais des fois, j'ai envie.
T'es toujours bienvenu.
Et c'est, un jour, on arrivera peut-être à débattre sur le podcast, mais pour l'instant, on n'est pas encore rendu là. Mais c'est ça qui est intéressant et je pense qu'il y a de la valeur là aussi pour justement dans l'écoute et ce que l'écoute nous donne comme idée et nous faire bondir. Et je pense que c'est très intéressant.
Ça m'amène à deux points que j'appellerais bonus, si je peux dire, en termes, je veux en avoir cinq grandes leçons, mais il y en a deux qui sont peut-être plus simples, mais qui sont, à mon sens, quand même essentielles. Le quatrième point, donc, ça serait ne pas viser la perfection. Si le contenu et la valeur de production sont assez bons, il faut y aller, on s'améliore avec le temps. Et ça, je crois que c'est un des plus gros obstacles qui existent dans tout ce qui est production, je dirais écrit, audio ou vidéo sur Internet, se lancer, mettre au public nos idées, notre façon de penser, notre façon d'interagir et de se dire, regarde, ça peut-être, ça plaira pas à tout le monde, mais ça va plaire à qui on vise comme clientèle, comme segment, comme on a parlé au tout début, qui on vise par le podcast, et se dire, ben, sans viser la perfection, c'est assez bon pour que le message passe, pour qu'on puisse susciter une réflexion, pour qu'on puisse susciter un gain de perspective sur certaines questions, et en bout de ligne, créer de la valeur. Et de toute façon, épisode sur épisode, on va pouvoir s'améliorer. Quand dernièrement, j'ai réécouté les premiers épisodes qu'on a faits, ben clairement, il y avait une tension que je sens au niveau de chacun en arrière du micro, qui est peut-être moins présente aujourd'hui, qui est beaucoup plus naturelle. Et c'est tout à fait normal. Et je suis convaincu que si on refait un point, comme on le fait présentement à l'épisode 300, on aura encore une fois, on pourra voir le chemin parcouru de 1 à 150 et de 150 à 300. C'est tout à fait normal. Et ben, quelque part, faut accepter ce cheminement-là. Il n'y a pas rien qui est parfait jour 1. Il faut pouvoir apprendre, tester, bouger et s'adapter à quelque part.
Moi, je vais rajouter deux choses là-dessus. Bien entendu, l'excellent est l'ennemi du bien dans ce cas-là. C'est peut-être pas nécessairement innovant pour un auditoire, mais c'est innovant pour vous, c'est innovant pour nous quand on s'est lancé là-dedans, d'une part. Et d'autre part, c'est quand même un engagement. Je veux pas dire, mais on s'engage à faire ça. Et c'est un engagement, je dirais pas c'est une forme de sacerdoce, mais c'est un engagement qui nous tient à cœur. C'est un engagement auquel on s'astreint. C'est pas facile de faire du temps pour faire ça, entre guillemets, 52 semaines par année. Mais, en quelque part, dans cette contrainte-là, on trouve du plaisir aussi. Ça nous force à sortir de notre zone de confort pour poser la question. Pour moi, par exemple, j'ai dit oui, monsieur, moi, j'aimerais bien interviewer monsieur Jospin sur l'innovation dans l'action publique. J'essaye. Je dis pas que j'ai des réponses à chaque fois, mais, règle générale, moi, je dirais plus que deux fois sur trois des réponses favorables pour mes entretiens.
Et ça ben, tu touches le cinquième point, la cinquième grande leçon. Et ça me fait penser, c'est Véronica qui le remettait en lumière sur un post sur LinkedIn dernièrement. Évidemment, avoir du plaisir. Je pense que tu y touches. C'est avoir du plaisir à échanger ensemble. C'est avoir du plaisir à réfléchir aux questions que l'auditoire pourrait avoir et avec lequel on veut jouer dans un épisode pour pouvoir gagner en perspective, c'est du plaisir à rencontrer des nouvelles personnes sur le podcast, à accroître notre perspective nous-mêmes, à quelque part, avec les questions qu'on échange et de pouvoir justement cheminer avec les gens qu'on rencontre. C'est de créer des nouvelles relations en cours de route, des relations avec l'auditoire, créer le plaisir d'avoir des nouvelles relations avec les gens qu'on rencontre sur le podcast aussi. Quant à moi, ce n'est que du win-win-win et on pourrait autant pour nous, l'auditoire, que les personnes qu'on rencontre, ce n'est que du positif. Moi, c'est que du plaisir. Oui, ça prend du temps chaque semaine pour pouvoir produire les épisodes, mais à quelque part, j'en retire énormément. Et j'ose espérer que les personnes qui nous écoutent et qui nous suivent depuis 150 épisodes retrouvent le même élément de plaisir sur lequel on bâtit chaque semaine.
Oui, et je dois dire aussi, j'ai autant de plaisir aujourd'hui, 3 ans après, que j'avais au démarrage. Donc, le plaisir de la découverte, de la préparation, de choisir et d'aller vers les gens pour leur poser des questions, d'écrire ces questions-là, de réfléchir et faire un peu de recherche aussi, à droite, à gauche, pour dire qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là, comment est-ce que je peux challenger mon invité, lui poser des questions un peu plus pointues. Pas nécessairement, on ne cherche pas à les mettre en défaut. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'aller au fond de leur pensée et d'aller les amener à exprimer des choses qui, sans ça, ne seraient probablement pas sorties sur une question, entre guillemets, un petit peu plus superficielle. Donc, mais c'est effectivement, il faut aimer ça. Il faut avoir envie de s'investir dans cette recherche-là et, ben, comme Patrick Norinberg dit, prendre sa part aussi. Donc, écouter et se laisser influencer par nos invités et se remettre en cause dans notre façon de voir certaines situations de management, certaines hiérarchies de valeurs ou certaines méthodologies. Moi, je peux dire que j'ai pris ma part beaucoup depuis 3 ans et j'en ressors grandi. Merci à vous toutes et toutes qui nous écoutez, j'en ressors grandi.
Avec la barre de 150 épisodes passés, on désirait vous donner un peu plus de perspective sur l'arrière du décor, sur ce que Jean-François et moi retenions comme 5 grandes leçons de la production de ces épisodes-là, de création du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Peut-être pour vous aussi, vous donner envie d'explorer le médium. Peut-être certains d'entre vous voudront explorer la création d'un podcast. La barrière à l'entrée n'est pas très grande. C'est plutôt la barrière à maintenir le rythme, je crois, qui est importante. Mais avec une bonne dose de curiosité, une bonne dose de passion et surtout la volonté de vouloir partager de la connaissance, partager de l'expérience, il y a moyen de faire quelque chose d'extrêmement intéressant et de partager au plus grand nombre.
Oui, je confirme que moi, j'aimerais ça me faire interviewer dans un de vos podcasts. Ça me ferait très, très plaisir.
Pareillement. Donc, on espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes de l'épisode, comme à l'habitude, au www.intelliaconsulting.com/épisode150. Et d'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine.
Bonne semaine, Eric. À très bientôt.
Allez, au revoir. À très bientôt.